Bonjour à tous. Sur France Culture, il est midi, la grande table est jusqu'à 13h30, deux parties séparées par le journal de 12h30, deux parties qui aujourd'hui portent sur deux figures encore méconnues en France. En dernière partie, nous recevrons une rockstar, le philosophe américain Michael Sandel, véritable phénomène aux États-Unis et maintenant également en Asie. Il est en France pour la parution de son livre tiré de son cours très populaire, Justice, et il sera dans le studio de la grande table à partir de 12h50. Dans le journal de 12h30, Antoine Mercier.
Bonjour Caroline, on parlera du référendum britannique, c'est dans un peu plus de deux mois maintenant, avec ce coude à coude dans les sondages entre les pros et les anti-Brexit. Le leader du parti travailliste, Jeremy Corbyn, se range ce matin dans le camp du maintien du Royaume-Uni, donc dans l'Union Européenne, mais sans enthousiasme apparent, nous dira Franck Mathevon. Aux États-Unis, à l'approche d'une consultation importante, ce sera mardi prochain dans l'État de New York, après une semaine d'attaques incessantes, Hillary Clinton et Bernie Sanders vont se retrouver ce soir pour un débat qui promet d'être très tendu. François Hollande, lui, va tenter ce soir à la télévision une nouvelle mise en perspective de son action à un peu plus d'un an de la présidentielle. Le chef de l'État reste au plus bas dans les enquêtes d'opinion. Les conclusions d'un rapport de l'UNICEF publié ce matin où on apprend que la France se situe presque à la dernière place du classement en termes d'écart de performance scolaire. C'est Hakim Kasmi qui nous en parlera. Et puis on vient de connaître la sélection, les 20 films retenus dans la compétition officielle du Festival de Cannes, Caroline.
Oui, parmi ces films, on trouve Pedro Almodovar, les frères Dardenne, Xavier Dolan, Jim Jarmusch, Ken Loach ou encore Sean Penn. Et hors compétition, outre Woody Allen, on trouve Steven Spielberg avec son beau gros géant.
Voilà, Antoine Guillot viendra nous raconter tout ça tout à l'heure. L'invité de la séquence interview, Cécile Amar, grand reporter au Journal du Dimanche. Voilà pour les titres, c'est à vous, la grande table.
Et nous partons à la découverte d'une peintre allemande en compagnie d'une romancière française.
Des jeunes filles, à cet âge où l'on devient grande. Elle les peint dans le ciel, en contre-plongée. Martha Vogeler, la très jeune fille blonde, le front large et clair, le regard grave, le visage ovale, un seul arbre à gauche du tableau, un sarrau noir couvert d'un tablier blanc, ou une blouse rouge, cheveux lâchés, ou un voile transparent d'un gris mauve comme le ciel, de face, regard triste à serrer la gorge, ou de profil, nez, menton, collines en triangle, front courbe comme l'horizon. Une femme de 25 ans peint une fille qui devient femme. Une jeune mariée peint une très jeune mariée. Ce qu'elle partage est silencieux. Le temps pulse. Le soleil est toujours voilé sur ses tableaux. À cet endroit du monde, dehors, dans les bois et les champs, c'est la présence cotonneuse, assourdie mais puissante, de jeunes humaines debout sur la terre. Non pas à quoi rêvent les jeunes filles, mais ce qu'elles pensent. Martha Vogeler, évadée d'un tableau de son mari, coiffée de pâquerettes pré-raphaélites, dans une tunique bleu ciel, les mains chargées d'un vase. Cette pose un peu hiératique, sérieuse, le regard ailleurs, sera désormais la manière de Paula. Une jeune fille grave porte un objet comme une offrande. Ni triomphe, ni malaise, ni érotisme délibéré. Ce ne sont pas des mondes d'angoisse ou de secret, mais des mondes de pensée.
Bonjour Marie Dariussec.
Bonjour.
Vous venez de faire paraître « Être ici est une splendeur, vie de Paula M. Becker », une biographie, un livre qui va de pair avec une exposition que vous avez pensée avec la commissaire de cette exposition au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Vous écrivez dans les remerciements de ce livre que vous vouliez écrire et montrer parce que pour vous, c'était le même geste amoureux. Donc l'exposition et le livre ont été imaginés ensemble.
Oui, alors dans ma tête, oui. J'étais en train d'écrire cette biographie et je me disais, ça ne suffit pas, il faut donner à voir ces tableaux, il faut les montrer à Paris. Et précisément à Paris parce que Paula Modersohn-Becker aimait passionnément Paris. Et je suis allée au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, il pensait déjà à Paula Modersohn-Becker et ça a cristallisé. Et on s'est lancé dans cette exposition avec Fabrice Argote et Julia Garimors. Et je la trouve absolument merveilleuse, l'exposition. Pour moi, c'est vraiment un aboutissement.
Pourquoi il fallait montrer ce travail de Paula Modersohn-Becker, qui est très connue en Allemagne. Hein.
Elle est très populaire
elle
est, en Allemagne.
Elle est née en 1876, elle est morte en 1907 à l'âge de 31 ans. Elle est très connue en Allemagne. On a même, dites-vous, des cartes postales d'elle. Il y a un musée à Brême.
Oui.
Mais en France, effectivement, on ne la connaît pas du tout.
Non, c'est même... Ça a fait partie de ma dynamique, en fait, parce que plus j'avançais dans ma connaissance de cette femme et de son travail, plus j'étais étonnée par la différence de notoriété que je continue à... Enfin, je ne me l'explique pas. Je ne comprends pas pourquoi, à une frontière près, elle est si connue d'un côté et pas de l'autre. Et du coup, ça, j'ai eu vraiment envie de casser cette frontière, en fait, de la faire passer, en quelque sorte.
Est-ce que pour vous, c'est une peinture de femmes pour les femmes?
Oh non. D'abord, c'était une femme qui aimait les hommes. C'était une séductrice, c'était une coquette. Elle était assez belle, elle aimait beaucoup se parer. Elle avait tout cet aspect féminin, codifié féminin. Après, elle peint des choses qu'elle ne voit pas ailleurs. C'est-à-dire, ce qu'il y a sur ces tableaux, c'est une vision des corps féminins, des enfants, des petites filles, des bébés aussi, que moi, personnellement, je n'avais jamais vu ailleurs. Et c'est ça qui m'a attirée chez elle. Et qu'on ne rencontre pas dans l'histoire de l'art avant elle, c'est-à-dire une vision du corps féminin et aussi du corps des petites filles, dénudée, je dirais, vraiment dénudée, c'est-à-dire dénudée d'une approche masculine. Ce n'est pas pris dans un désir ou dans une revendication ou dans je ne sais quoi, ou une domination masculine. C'est pris dans un autre regard. Et je crois que ça se voit et que ça intéresse autant les femmes que les hommes, parce que les hommes ont aussi beaucoup à apprendre, à regarder dans ce regard-là. Enfin, qu'est-ce qu'une femme nue, au fond? Qu'est-ce qu'une femme qui n'est pas prise dans un regard masculin, qui est prise dans un autre regard? Et il se trouve que Paula Modersohn-Baker donc, est la première femme à s'être peinte nue dans l'histoire de l'art. C'est aussi simple que ça.
C'est d'ailleurs comme ça que vous avez eu accès à sa peinture, par un nu. On y reviendra, ouais, parce que c'est un peu plus tard dans l'exposition. Mais ça n'est pas par un nu de femme que vous avez souhaité commencer, Marie Dariussec, cette visite. C'est par le portrait d'une petite fille. On y vient parce qu'il y a beaucoup d'enfants, de vrais bébés, dites-vous. Une petite fille qui est assise sur une chaise. C'est une petite paysanne qui est assise sur une chaise, qu'elle a peinte en 1903 ou 1905, si mes yeux, voilà, 1905 plutôt. Pourquoi commencer par celle-ci? Qu'est-ce qu'elle dit de particulier? Est-ce que c'est le regard, par exemple, l'intensité du regard?
D'abord, je trouve que c'est un tableau très Paula Modersohn-Baker. C'est-à-dire, c'est un tableau assez joli. Et je crois qu'il faudrait rendre ses lettres de noblesse au mot joli aussi, en esthétique. C'est un tableau séduisant. C'est un tableau attirant. C'est une petite fille... mignonne, si on peut dire, assise sur une chaise, elle a un petit museau d'écureuil. Et en même temps, c'est une fille extrêmement sérieuse. Elle a peut-être 8 ans, elle a des gros sabots de bois, une assez belle robe. Elle n'est pas dans la misère, c'est une paysanne, une petite fille avec une robe solide.
Et des sabots.
Et des sabots sur une chaise qui est bien sûr plus grande qu'elle. Enfin, c'est une petite fille. Et cette petite fille est prise dans un regard qui la prend au sérieux, justement. Elle est grave, elle est mélancolique, elle est même au bord de la tristesse. Il faut voir aussi que Paula Modersohn-Baker, elle peint pendant la pause. Et la petite fille, je crois qu'elle commence à s'ennuyer aussi. Et elle regarde la peintre. Et c'est quelque chose qu'on ressent. C'est pas pour rien que l'exposition est sous-titrée « L'intensité d'un regard ». C'est parce que Paula Modersohn-Baker a vraiment ce talent pour nous faire entrer dans le regard des modèles, y compris des petits modèles, et jusqu'au bébé. Elle prend ses modèles très au sérieux. Il n'y a pas de mièvrerie, il n'y a pas de candeur ou d'innocence ou tout le discours habituel sur les petites filles. C'est une petite personne humaine sur la terre qui pense, voilà, qui songe et qui est pleine d'une gravité que je trouve très belle.
Ces couleurs qui sont dans ce tableau se retrouvent-elles dans l'ensemble de son œuvre? Alors il faut peut-être dire un mot de ces couleurs. Le mur du fond est dans les marrons ocre. La chaise est presque rouge, il y a beaucoup de rouge. Et la robe de la petite fille est très sombre. On devine des rayures qui donnent de la lumière au tableau. Mais c'est gris foncé peut-être, et les sabots sont couleur bois, les sabots. Oui, ce sont des couleurs qu'on retrouve régulièrement.
En fait, Paula Modersohn-Baker utilise toute une gamme de couleurs assez franches. Ce qu'on va retrouver, par exemple, c'est le fait qu'elle souligne de noir les bords du personnage, sans souci de réalisme. Hein. Elle met en avant le personnage. Les mains sont très typiques aussi. Paula Modersohn-Baker va aller vers une stylisation des mains, au point que son mari, Otto Modersohn, qui ne la comprenait pas sur le plan esthétique, dit qu'elle fait des mains comme des cuillères et des nez comme des épis de maïs. Ce qui est très Paula Modersohn-Baker aussi, c'est le gros plan. Tout ce qui est anecdotique, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de narration. On ne raconte pas l'histoire de cette petite fille, on la donne à voir dans cette pause qui dure. Donc. À la même époque, donc, dans le village où Paula Modersohn-Baker s'est formée, qui s'appelle Worpswede, qui est une sorte de Barbizon à la française, on a des peintres... qui sont dans un certain naturalisme et qui, eux, quand ils peignent des enfants ou des maternités, les posent sur des carrioles, dans un soleil couchant, avec des tas d'objets qui racontent une histoire. Paula Modersohn-Baker, elle n'est pas du tout dans ce récit-là, ni dans la sacralisation d'une paysannerie authentique, ni même dans... Enfin, elle n'est pas du tout dans le nationalisme allemand de l'époque. Elle parle d'autre chose.
En face de ce tableau-là, Marie Dariussec, deux autres tableaux, une mère allaitant et la tête d'une jeune fille avec un chapeau de paille sur la tête. Peut-être qu'on peut commencer par la mère allaitant. La première chose qui me frappe, c'est une mère qui allaite son bébé. La première chose qui me frappe, c'est le regard de cette mère. Mmh. Vous parliez de tristesse ou au bord de la tristesse pour la petite fille, la petite paysanne tout à l'heure. Là, pour moi, le regard de cette mère est bouleversant de tristesse. Et la deuxième chose qui me frappe, c'est... Bah, la taille du bébé, il a plein de cheveux, c'est un grand bébé.
Il a 2 ans, oui.
Par opposition au petit nourrisson que nous venons de quitter.
Donc c'est une paysanne harassée, hein. elle est épuisée cette femme, qui allaite cet enfant. Il y a une grande fatigue dans le tableau. Alors ce qui m'intéresse dans toutes les maternités de Paula Modersohn-Baker, c'est qu'il n'y a pas du tout de sacralisation, ça n'est pas du tout une madone. On est aussi très très loin des odalisques. C'est une représentation de la femme assez crue, mais non dénuée de tendresse et aussi de sensualité. Enfin, la courbe du sein est très belle. Et surtout, cet énorme pouce calleux, noir, de paysanne, posé sur cette petite main d'enfant, il y a là, exactement au centre du tableau, un punctum, très touchant, dans une énorme rudesse, hein, parce que le tableau est rude. Et effectivement, c'est un grand bébé. Enfin, je pense que les paysannes allaitaient très tard. Un bébé roux du nord de l'Allemagne. Il y a un contraste entre les chairs très claires et puis les vêtements et le fond du tableau très
noir.
Sombre, très noir, oui. Oui, il y a vraiment un travail du noir quand on se rapproche.
Dès qu'on n'avait pas de hors-champ ou de narration ou de perspective, là, c'est très net.
Oui, on est sur c'est un gros plan.
Noir, voilà, c'est un gros plan.
C'est un gros plan sur cette femme qui allaite.
Alors qu'à côté, cette jeune fille qui porte un chapeau de paille, nous regarde comme si elle avait voulu la prendre en photo, puisqu'elle a son regard tourné vers nous, comme si elle avait presque soudainement tourné la tête pour regarder, non pas pour poser, mais pour regarder subrepticement la peintre. Et au fond, on devine, mais c'est très flou, on devine un ciel et peut-être un paysage de campagne.
Alors quand il y a un paysage derrière les portraits de Paula Modersohn-Baker, c'est toujours un paysage plat avec parfois une colline. C'est la lande dans laquelle elle vivait à Worpswede, donc près de Brême. Cette petite fille, alors elle porte un étrange chapeau noir. Il y a une espèce de bouche d'ombre au-dessus de sa tête. Elle a les yeux cernés. Elle n'est pas dans cette espèce d'angélisme de l'enfance.
Des yeux très bleus.
Des yeux très bleus, oui, des cheveux très blonds, une petite bouche... C'est un tableau qui est intéressant aussi parce que c'est un des très rares tableaux que Paula Modersohn-Baker a exposé de son vivant dans une exposition collective. Et les quelques critiques qu'il y a eues ont été extrêmement mauvaises. Le critique a dit qu'il avait la nausée devant ce tableau et que c'était une disgrâce pour l'art allemand. On a un peu de mal à comprendre aujourd'hui. Il y a même un certain charme à ce tableau, sauf effectivement ce visage d'enfant très fatigué, je trouve, très, très cerné.
Ça, c'est un peu une constante de son travail. Les enfants, les femmes ont un regard, effectivement, qui n'est pas nécessairement un regard très joyeux. Vous disiez que cette exposition est sous-titrée « L'intensité du regard ». Il y a même toute une salle qui s'appelle « L'intensité du regard ». C'est cette salle qu'on vient de quitter, d'ailleurs. L'intensité s'accompagne d'une vraie profondeur dans le regard. Et cette profondeur, elle n'exprime pas nécessairement la joie de vivre. Elle exprime autre chose.
Non, là, on est devant donc son autoportrait, sans doute le plus célèbre, l'autoportrait aux Camélias, qui se trouve à Essen. Dans la Roure. Quand j'ai vu ce tableau là-bas au musée Folkwang à Essen, j'étais accompagnée de deux amis, deux hommes, qui justement s'interrogeaient sur ce regard. Ces deux hommes trouvaient ce regard très triste. Ils avaient même l'impression qu'au bas des yeux, donc qu'on voit là, il y avait un trait de larmes, ce qui est possible. Hein. La bouche sourit pourtant légèrement, même s'il y a un pli d'amertume. Les yeux sont cernés, comme toujours.
C'est jocondien. Hein.
C'est très jocondien. C'est très énigmatique. Il me semble, moi, y décerner une certaine sérénité. Mais c'est ça qui est magique avec ces tableaux. C'est que, justement, on peut vraiment interpréter selon son propre état d'âme aussi. Et ce qui est extraordinaire quand on voit le tableau en vrai, c'est regarder comme le bleu, le turquoise derrière ressort. Et elle a cette façon, qui est assez fréquente chez elle, de faire des autoportraits en se laissant, elle, en contre-jour, et nous dans la lumière, nous les spectateurs. Ça donne un effet effectivement de profondeur, on plonge dans son regard, on est en dialogue avec son regard, mais un regard qui reste assez énigmatique.
Marie Dariussecq, vous avez écrit dans votre livre « Être ici est une splendeur », vous avez décrit ce tableau. Est-ce que vous voulez bien nous lire ce passage de l'autoportrait à la branche de camélia ?
Elle s'est peinte en contre-jour, sciemment. Elle laisse le spectateur dans la lumière. Il me semble qu'elle sourit légèrement. Mes deux plis font tomber le coin de ses lèvres. Yeux cernés. Sa main, en forme de tulipe, tient une branche de camélia. Elle porte un lourd collier d'ambre. Ses sourcils sont légèrement froncés, concentrés. Pour moi, elle peint. Ça n'empêche pas d'interpréter. L'amertume, la déception de la vie maritale, la solitude artistique. Mais elle ne nous prend pas à partie. Son regard est d'abord fixé sur sa propre toile et sur le miroir où elle scrute la forme de ses traits. C'est l'autoportrait d'une femme qui peint.
Nous allons nous approcher de ce nu allongé avec un petit bébé devant elle, contre elle, contre son corps.
Oui, en fait, j'avais reçu un courriel pour un colloque de psychanalyste sur la maternité avec une petite vignette illustrative qui était grande comme un timbre-poste et qui était ce tableau. Et ça m'a intriguée, cette image. Je n'avais jamais vu de scène d'allaitement dans cette position, tout simplement, en peinture. Et quand je me suis renseignée, que j'ai vu que c'était une femme qui l'avait peint en 1906, la date m'a paru très précoce. Ça m'a semblé d'une grande modernité. Et elle a ça qui est très fort, c'est que, avec une grande simplicité, façon discours, elle donne à voir des positions d'allaitement qui sont extrêmement éloignées. Par exemple, exactement la même année, d'une très belle maternité de Picasso, très sexy, très érotique, où on voit une femme très espagnole, avec une grande mèche noire de cheveux, un sein rond, qui tient un enfant assise droite. C'est impossible d'allaiter comme ça, en fait. On se tient pas comme ça. On est beaucoup mieux allongé. Et voilà, Paula Modersohn-Becker l'a observé chez des paysannes. Et ici, vraisemblablement, c'est un modèle, c'est une migrante, comme on dit aujourd'hui, italienne. Quand Paula Modersohn-Becker était à Paris, elle payait très peu cher les migrantes italiennes pour qu'elles acceptent de se dénuder pour les peindre. Et on a comme ça plusieurs portraits de femmes nues qui sont vraisemblablement des immigrées italiennes récentes à l'époque. Mais voilà, ces femmes allaitaient confortablement.
Des femmes nues, des mères allaitantes, des bébés, et beaucoup d'autoportraits, en effet, dont le plus célèbre est représenté là, sous nos yeux, Marie Dariussecq, l'autoportrait au 6e anniversaire de son mariage. C'est celui-là qui est surtout représenté...
En Allemagne, oui.
En Allemagne, voilà. C'est celui-là qu'on connaît le plus.
Oui. Alors, c'est toute une histoire. On dirait qu'elle est enceinte, mais elle n'est pas enceinte.
Elle a son petit ventre.
Elle a un ventre gonflé voilà, qu'elle montre, qu'elle présente entre ses deux mains, comme avec un geste qui est très typique des femmes enceintes. Mais c'est en fait une sorte d'autofiction, hein, c'est-à-dire qu'elle n'est pas enceinte à cette date-là. Elle sera enceinte à peu près un an après. Et même à cette date-là, exactement dans son journal, elle écrit à son mari qu'elle ne veut pas d'enfant, pas maintenant et certainement pas de lui, avec une grande violence. C'est une femme de caractère aussi. Hein. Et donc, elle, pour moi, c'est quand même une représentation d'un désir d'enfant ou d'une possibilité d'enfant peut-être dans une autre vie, je ne sais pas. Après, les gens qui s'intéressent à Paula Modersohn-Becker ont tous des interprétations différentes de ce tableau. C'est ça qui est formidable aussi. C'est un tableau très doré, très très lumineux, avec son fameux collier d'ambre.
Oui, j'allais vous en parler, on retrouve très souvent ce collier d'ambre.
Oui, alors à partir de 1905, en gros, il apparaît dans ses tableaux très fréquemment. Et l'ambre est un matériau de la Baltique. Elle a vécu exactement au bord de la Baltique. Et alors on peut interpréter aussi signe d'éternité, signe... Mais pour moi, Paula Modersohn-Becker n'est pas du tout symboliste. Elle est vraiment dans la présentation des choses de la terre, en quelque sorte, sur sa peau nue.
Sur sa peau nue, avec un regard, c'est un regard assez déterminé et presque de défi.
Oui. Quand elle est nue sur ses portraits, elle a toujours l'air assez malicieuse, assez joyeuse même. Je crois qu'elle est heureuse de se présenter comme ça. Il faut savoir aussi qu'elle elle n'avait aucun public, hein. Elle n'a eu aucune reconnaissance artistique de son vivant. Et donc elle avait paradoxalement une très grande liberté. Elle tentait ce qu'elle voulait. Et c'est aussi un moment... Elle n'a pas d'argent à elle, donc les modèles coûtent cher. Donc elle se peint elle-même. Il y a une évidence à tout ça. Hein. Et à ce moment-là, elle est dans son atelier à Paris, dans sa plus grande productivité artistique au printemps 1906. C'est aussi une période où on a des photos d'elle, nues, qui ont servi de modèles pour certains de ses autoportraits.
Dans votre livre, Marée d'Arieusec, Être ici est une splendeur, qui est la vie et la mort de Paula Modersohn-Becker, vous la présentez aussi dans sa vie quotidienne, dans ce qu'elle aime, la compote de pommes, mais aussi dans ses amitiés. Amitié très forte avec Rainer Maria Rilke. Mmh. C'est peut-être le moment d'en parler de Rilke, d'autant que devant nous se trouve un portrait de Rainer Maria Rilke. Pareil, très gros plan.
Très gros plan, toujours les mêmes yeux sans pupille, ou alors à peine esquissés. Apparemment, il ne se trouvait pas très flatté sur ce tableau. Moi, je l'aime beaucoup.
On peut l'aimer et comprendre qu'il ne se trouve pas.
Absolument.
Pas très à son avantage,
oui,
du grand séducteur.
Il est un peu lipu, il a un nez un peu gros, mais quel humour aussi. Moi, je pense qu'elle se moquait aussi très légèrement de lui en faisant ça. Et ça dit beaucoup de leur amitié. C'était une amitié assez houleuse, une amitié très égale. C'est-à-dire, je pense que... D'abord, je pense que c'est tout simplement la seule femme qui lui a résisté, enfin qui n'a pas couché avec lui, pour appeler un chat un chat. De dépit, il a épousé sa meilleure amie, Clara. Et on a toute une correspondance autour de l'année 1900 entre Clara, Paula et Rainer Maria Rilke, qui est très très belle, qui a été traduite en France par Jacques Côté. Donc cette amitié va durer sur plusieurs années avec plusieurs brouilles. Et en 1906, Rainer Maria Rilke et Paula Modersohn-Becker se retrouvent à Paris. Ont des échanges très intenses, ils se voient tous les dimanches. C'est le moment où Rilke a été jeté à la porte par Rodin, dont il était le secrétaire. Ils se consolent un peu mutuellement.
En même temps, amitié très profonde, houleuse, disiez-vous, mais très profonde et durable. Rilke, à la mort de Paula, a écrit un requiem pour son ami, un très beau texte.
Voilà. Moi c'est une des raisons aussi qui m'ont fait me jeter dans cette œuvre de Paula Modersohn-Becker, parce que je connaissais bien le requiem de Rilke, qui est en trois parties, et la partie à une amie me touchait particulièrement. Et c'est donc des années après ma première lecture du requiem que j'ai compris que cette amie, c'était Paula Modersohn-Becker, qu'il ne nomme pas. Et ça, je lui en veux, à Rilke, de ne pas l'avoir nommée. Décidément, il y a un problème avec le nom des femmes. Mais bon, la mort prématurée en couche de Paula Modersohn-Becker a bouleversé Rilke et il écrit autour de son fantôme. Pendant trois nuits hantées, il écrit ses requiem à une amie où il lui rend un hommage et à la femme et à la peintre prodigieux. Enfin, c'est un texte extraordinaire.
Continuons avec vous, Marée d'Arieusec. Alors, vous avez choisi de vous arrêter devant un autoportrait nu, mais debout cette fois, et en pied.
Oui.
On la voit en entier.
Paula, elle peint une femme nue. Bon, elle a des hanches, des seins. On n'est pas du tout chez Olympia de Manet. D'abord, elle est debout, et puis elle n'est pas... Est-ce qu'elle est érotique? Je ne sais pas. Elle est voluptueuse, mais c'est d'un autre érotisme, je dirais. Ce n'est pas non plus une sainte. Enfin, elle est posée là, avec ses chairs de femme. Justement, en fait, je trouve qu'il n'y a pas de discours. Je trouve que Paula Modersohn-Becker, là, elle ne tient pas de discours. Elle donne à voir un corps, avec par contre quelque chose qu'elle maîtrise très bien, Paula, qui est la gestuelle, cette montée des mains du pubis jusqu'au cou, le long du collier, avec deux oranges qui reprennent les seins. Moi, je me refuse à y voir du symbolisme, mais on peut, hein, si on veut, mais c'est pas trop ma façon de penser. Disons que j'y vois vraiment un mouvement esthétique qui qui monte vers la tête et un rappel des formes et des couleurs dans ces fruits, dans cette ambre. C'était une peintre virtuose des formes pour ça. Hein.
Elle a peint aussi donc, beaucoup de visages, de portraits, de nus. Elle a peint aussi quelques natures mortes. Est-ce que les natures mortes, Marie Darrieussecq, vous intéressent autant que ces mères, que ces nus, que ces autoportraits? Est-ce que vous y trouvez autant de plaisir ou d'émotion à regarder? En particulier des potirons.
Oui. Alors avec la commissaire Julia Garimors, on a vraiment axé l'exposition sur les portraits parce que on pensait que c'était là qu'elle était la plus forte, tout simplement. Mais nous aimons aussi énormément ces natures mortes. Il y a une très belle salle de natures mortes ici. Elle a peint de très nombreuses natures mortes, en particulier des potirons, parce que elle aimait beaucoup jardiner, mais elle habitait le nord de l'Allemagne, donc la période où les choses poussaient très courtes, et le potiron est très rustique et pousse partout. Et donc elle avait beaucoup de potirons dans son jardin qu'elle faisait monter le long de pergolas, faut le faire quand même. Et c'était une enchanteresse aussi, par exemple, elle tuteurait les fleurs fragiles dans ce pays de vent avec des rubans de couleurs. Donc il faut imaginer son jardin plein de rubans, plein de globes de verre, plein de pergolas. C'était un jardin extravagant. Il se trouve que j'ai une histoire particulière avec ces deux potirons qui sont présentés là, parce que donc l'un est à Cologne et l'autre est à Wuppertal, c'est là où ils sont conservés en général. Et quand j'ai fait mon petit tour d'Allemagne de tableau en tableau, ces deux tableaux étaient dans les caves des musées respectifs. Et c'était magique pour moi de voir les conservateurs aller chercher ces tableaux dans les caves avec souvent des gants en latex et de me les présenter sous des lumières de néon, sur des sols de béton. Et ces tableaux explosaient, enfin le orange de ces potirons explosait. Et je me disais, mais il faut absolument faire une exposition, donner ça à voir, et si possible à Paris, qui était sa ville chérie.
Marie Darrieussecq, vous avez écrit la vie de Paula Modersohn-Baker, et donc sa mort prématurée à l'âge de 31 ans, elle venait d'accoucher. Elle est morte d'une embolie en se levant 18 jours après avoir accouché. Et en tombant, elle a dit juste un mot, Schade, dommage. Et vous écrivez que vous avez écrit cette biographie à cause de ces derniers mots, parce que c'était dommage.
Oui, parce que c'est dommage qu'une femme dans la pleine possession de ses moyens artistiques meure subitement au moment où Picasso prend son élan. Hein. C'est aussi très dommage de mourir avec un bébé de 18 jours. C'est affreux avec la vie devant soi. Et elle est morte, comme dit Rilke dans son Requiem, d'une mort démodée. C'est-à-dire que même à l'époque, on aurait pu éviter cette mort. C'est une erreur médicale, quoi, de l'avoir fait rester comme ça allongée après cet accouchement. Parce qu'on laissait les femmes enceintes comme ça allongées trop longtemps. Et voilà, nous aujourd'hui on est debout, on est vivante, on a des antibiotiques, on a ce qu'il faut. Et oui, c'est dommage. Et j'aurais aimé qu'elle vive et voir ce qu'elle aurait fait après.
Elle aime le carnaval, les confettis qui s'accrochent aux chevilles, le lilas en bourgeon de la fin février et les saules en chaton début mars. Merveille pour une fille du nord de l'Allemagne. Elle aime le marché du temple où se fournissent les grisettes, soieries d'occasion, blouses de dentelle, fleurs artificielles aux couleurs fanées, ballerines de satin usées par la danse. L'intimité, écrit-elle, est l'âme du grand art. Elle veut peindre la peau, les tissus, les fleurs, ce que photographiera avec génie Francesca Woodman 70 ans plus tard.
Paula Modersohn-Baker, c'est au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris jusqu'au 21 août et le livre de Marie Darrieussecq, Être ici est une splendeur, Vie de Paula M. Baker, c'est aux éditions POL, prise de son François Rivalan, réalisation Lionel Quentin. J'ai juste une petite annonce à vous faire avant le journal de 12h30. Demain à 19h, France Culture et la Comédie Française présentent Le Train de Georges Simenon, roman historique, roman de la France des années 40, roman d'une génération
génération. Le train écrit en 1961 est aussi a posteriori un document d'époque et de ces histoires dont on fait les meilleurs romans puisqu'il s'agit d'un homme ordinaire, bousculé par l'extraordinaire, c'est-à-dire l'histoire, et que Simenon s'y impose comme un romancier maître. Ne manquez donc pas cette soirée qui sera réalisée par Blandine Masson. Le texte a été adapté par Pierre Assouline et sera joué par la troupe de la Comédie Française dont Bruno Raffaelli, Guillaume Gallienne, Adeline Dermy ou Pierre Ancis. C'est au studio 104 de la Maison de la Radio à Paris à 19h. Programme détaillé et réservation sur le site maisondelaradio.fr ou au 01 56 40 15 16.